d'emploi. Mode d'emploi.
Et voilà, bienvenue sur Mode d'emploi, le format secret de fabrication, une fois par mois, donc le travail, la vie dans les entreprises, pourquoi on se laisse pas chosifier, pourquoi on continue à résister, à réfléchir, qu'on soit salarié, fonctionnaire, chômeur, devant, derrière les guichets, ça communique, ça discute, ça réfléchit, ça résiste, ça refuse de se laisser manipuler par les injonctions du management. Donc voilà, vous êtes bien donc sur RFPP, la radio des luttes et la radio des solidarités, 106.3 FM, www.rfpp.net. Et vous pouvez bien entendu appeler la ligne de l'émission que je ne vous donnerai pas car il fallait regarder le bandeau de l'émission ou bien connaître la radio. Bah voilà, c'est tant pis. Hein. Bon, alors, sérieusement, aujourd'hui, nous allons traiter du management de fonction publique et plus précisément du nouveau management de fonction publique. Bon, il ressemble un peu à l'ancien management du privé, il faut le dire. Mais dans la fonction publique, c'était assez nouveau. Voilà, alors donc nous avons avec nous l'auteur du livre « Pourquoi joindre l'inutile au désagréable ?» ce qui est une bonne définition du management public et donc le sous-titre « En finir avec le nouveau management public ». Donc je vais passer la main à Nathalie qui va nous faire un plaisir de présenter l'auteur, l'ouvrage et l'interviewer.
Voilà, donc alors bonsoir Evelyne Béchol-Rognon, merci d'être avec nous à l'antenne ce soir. Alors vous êtes enseignante depuis 20 ans. Vous enseignez depuis 20 ans la philosophie au lycée des Ulysses, dans le nord de l'Essonne. Elle est aussi formatrice pour de jeunes enseignants en philosophie à l'ESPE de Nanterre, hein, donc c'est bien l'école de formation, l'ESPE, et présidente de l'Institut de recherche de la FSU, et co-auteur de « Manager ou servir ?» pour interrogation des services publics en prise avec le nouveau management public. Alors, ce soir, nous allons aborder cette nouvelle forme d'approche hein, qui nous vient donc du monde du privé. Alors, ma première question, Evelyne, ça serait comment vous pourriez définir donc ce que c'est que le nouveau management public ?
Alors, le nouveau management public, comme l'a dit Bob, c'est très précisément appliquer au public les méthodes de management qui ont si bien mal marché dans le privé, notamment la mise en concurrence, l'évaluation quantitative, individuelle, obsessionnelle, chiffrée, et l'idée fondamentale que chaque être humain ne travaille que s'il est motivé, mobilisé par la perspective d'un gain financier. Et donc, dans le public, c'est relativement récent, et ça a des effets de déflagration très importants, pour plusieurs raisons. D'abord parce que comment voulez-vous évaluer de façon immédiate et quantitative ce qu'apporte un agent du public ? Moi, je suis enseignante. Comment est-ce qu'on peut évaluer ma plus-value, puisque c'est en ces termes-là maintenant qu'on nous parle, par rapport à mes élèves ? Comment, entre le 1er septembre et le 20 décembre, on peut savoir en quoi j'ai fait avancer avec plus de mérite et plus de qualité mes élèves que mes collègues voisins. Donc ça pose sur une matière aussi qualitative et aussi complexe que le service au public et notamment l'enseignement ou le soin ou par exemple le Pôle emploi ou d'autres professions encore. La simple idée de dire qu'on va peser, mesurer et payer en fonction de cette mesure, c'est déjà une idée très, très stupide.
Alors, est-ce que vous pourriez enraciner contextuellement d'où vient cette nouvelle forme d'approche du travail ?
J'entends deux questions. L'une, c'est du point de vue du concept, hein, d'où ça vient et l'étymologie. L'autre, c'est peut-être d'où ça vient en termes géographiques et historiques.
C'est ça.
D'accord. Je vais répondre aux deux questions, même s'il n'y avait que la deuxième qui était vraiment explicite. Je trouve ça important de dire d'où vient le management en termes étymologiques. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que, contrairement à d'autres textes, je garde ce terme affreux de nouveau management public. parce que, d'abord, un des traits qu'il caractéristique, c'est de dire constamment le contraire de ce qu'il fait, de prendre des mots très séduisants, de les vider de leur contenu, de les vampiriser et de projeter dedans des trucs bien, bien néfastes, mais avec des mots très sympas, comme le nouveau contrat de la confiance, l'école de la confiance, la bienveillance généralisée, etc.
Alors, depuis peu, apparemment, le paradigme a changé, puisque ça serait maintenant faire avec la défiance.
Ah, faire avec la défiance, voilà.
C'est depuis les gilets jaunes, ça, c'est ça ?
C'est depuis les gilets jaunes.
D'accord, bon, effectivement. C'est le nouveau...
Donc,
nouveau
la peur a changé de camp.
Oui, c'est ça.
Voilà, c'est le retournement de concept. Et donc, le fait d'insister pour utiliser les termes adéquats, y compris et surtout quand ce sont des termes moches et qu'ils désignent une réalité qui n'est pas reluisante, ça me semble important. D'autre part, dans le cas du management, en travaillant un peu sur ce concept, j'ai vu que, bien évidemment, c'est un mot qui vient de l'anglais, mais c'est un mot qui vient de l'anglais, mais qui est venu préalablement du français. Et dès le 15e siècle, le terme manager existe et il désigne le fait de faire tourner les chevaux dans un manège. Et donc de les faire tourner dans un manège pour les dresser, pour les soumettre, de les faire marcher au pas, au trot, au galop, sur le trajet qu'on souhaite leur faire faire, de leur taper dessus s'ils ne sont pas sages, bien sages. Et donc cette idée que le management vient de ce terme-là, de faire tourner des animaux dans un manège pour les dresser, non pas dans une visée de rentabilité, d'efficacité, de productivité, mais juste dans une idée de soumission, ça me semble une idée qu'il est intéressant de garder à l'esprit.
C'est merveilleux l'étymologie. Hein.
C'est souvent pas mal. Ouais. Ouais, ouais. Et puis c'est la racine antérieure encore, c'est manus, la main, et donc le management, c'est la manipulation, c'est garder la main sur. Et donc la lutte syndicale pour lutter contre le nouveau management, c'est précisément faire balancer cette main de notre échine et reprendre la main sur nos vies et notre métier. Et sinon, pour répondre à ta question, le nouveau management vient évidemment des pays anglo-saxons et plus précisément de Grande-Bretagne, essentiellement des années 75-90, donc quand Margaret Thatcher a été Premier ministre. Et donc son obsession comme Premier ministre, qu'elle avait déjà quand elle était quelques années avant, de 71 à 75, 74 je crois, ministre de l'Éducation, elle était indignée de constater que les enseignants faisaient ce qu'ils voulaient. Et c'est un peu vrai, un enseignant dans sa classe, quand tout va bien, il fait ce qu'il veut, c'est-à-dire qu'il s'adapte, il a évidemment un programme, il a évidemment des objectifs, mais il adapte son enseignement à ce que lui il est au moment où il est présent et aux élèves qu'il a en face de lui, et il essaye de faire du mieux qu'il peut pour arriver avec les élèves qu'il a face à lui à leur donner le maximum d'envie d'apprendre et le maximum de connaissances. Et ce côté, cette autonomie réelle des enseignants, c'est quelque chose que Margaret Thatcher ne supportait pas. Quand elle est devenue Premier ministre, le mot d'ordre c'était l'économie, bien sûr, la fameuse efficience, faire plus avec moins, réduire les coûts, augmenter l'efficacité, et par des modalités, alors qu'ils sont pas tout à fait exactement les mêmes dans les pays anglo-saxons que chez nous, mais c'est quand même toujours l'idée de, en développant la concurrence, de réduire les coûts et d'améliorer l'efficacité. Alors dès qu'on se penche un peu sérieusement sur ce type d'affirmation, parce qu'on a tellement l'habitude d'entendre ça, de dire on va faire mieux avec moins, on va supprimer des postes, mais vous allez mieux travailler, vous allez voir, le lycée il va être bien meilleur avec plus d'élèves par classe, le soin il va être bien meilleur avec moins d'infirmières. On est tellement gavé par ce type de discours que on finit presque par ne plus réagir. Alors que quand on nous dit vous allez faire mieux avec moins, on devrait tous hurler et ne pas laisser dire des choses aussi aussi absurdes. Je veux bien qu'on ait, que dans certains cas il y avait des des niches d'inefficacité, peut-être un peu de gras sur le mammouth, peut-être, mais ça fait bien longtemps que on est à l'os et qu'il n'y a plus de voilà. Si maintenant on continue à enlever, on va tuer évidemment la bête.
Alors juste moi, alors déjà, on est à l'os, ça c'est une expression qu'on maîtrise parfaitement quand on est syndicaliste dans la fonction publique, parce qu'effectivement c'est le constat partout, hein. Donc nous aussi à l'inspection du travail on est à l'os et on est à l'os depuis longtemps. Il y a un deuxième aspect moi que j'entends derrière, c'est aussi alors je sais pas si c'était à l'initial, enfin au processus initial du nouveau management public, mais aujourd'hui ça va de pair avec une poussée vers la numérisation et la dématérialisation, en nous disant, bah, de toute façon, maintenant, ces outils-là vont compenser le manque de gens et compenser le contact direct. Ça aussi, ça a été intégré, ça, dans le...
Bien sûr, ça a été la réponse un peu magique. C'est-à-dire que le développement du numérique, ça a permis, à un moment donné, de répondre à nos objections qui étaient quand même difficiles à contrer, de dire comment on fait pour accueillir plus de gens avec moins de personnes. On a pu maintenant répondre aux gens avec un magnifique sourire, mais on va créer une plateforme numérique. Et maintenant, la réponse à toutes les difficultés, à toutes les suppressions de postes, à toutes les situations intenables, c'est « mais vous allez voir, on va créer une plateforme numérique et ça ira très bien ». Je vous donne un exemple que j'ai entendu dans un stage que j'animais il n'y a pas longtemps et qui me reste encore en mémoire, des copains de Pôle emploi, donc, qui étaient de moins en moins nombreux. Hein. Il y a eu des suppressions de postes très massive, alors que, comme vous savez, le chômage n'est pas vraiment en franche régression, et qui donc ne pouvait plus recevoir toutes les personnes qu'il demandait, d'autant plus qu'il ne pouvait plus non plus traiter tous les dossiers. Et donc, leur agence, leur chef a décidé de le fermer, l'agence, tous les après-midi et un ou deux matins par semaine, je ne sais plus. Et sur la porte a été écrit « Nous sommes fermés pour mieux vous accueillir ». Avec en dessous le site internet de la plateforme numérique. Exactement. Ouais. Exactement. Donc les collègues qui racontaient ça étaient...
Oui, c'est-à-dire qu'on est dans un système de schizophrénie permanent. Et ce que vous avez appelé par la jonction paradoxale, c'est-à-dire effectivement, on avance un concept qui en réalité traduit tout son contraire. Et effectivement, ça sur le moral, ça doit pas être super, et puis vous le décrivez très bien. Alors, justement, moi, ce qui m'intéresse, alors moi, il y a deux choses qui m'ont vraiment intéressé dans le livre, c'est que déjà vous mettez en avant, bon, une chose quand même que tout le monde sait, c'est que dans la fonction publique, c'est essentiellement des femmes, hein, et puis il y a des secteurs où c'est encore plus, hein, comme la fonction hospitalière, l'enseignement, etc. Et vous dites par ailleurs que, donc effectivement, bon, il y a, et d'ailleurs ça s'est corroboré par effectivement, l'actualité où on mentionne que le recours aux arrêts maladie, ce sont davantage les femmes, et on peut deviner assez aisément la cause, hein, dans la fonction publique et même dans le monde privé, quant à leurs conditions de travail et sans parler de leur rémunération. Et alors vous dites que paradoxalement, alors voilà, donc là ça c'est une question quand même essentielle parce que ce management, ça fait quand même bien 20 ans qu'il est installé en France, hein, dans la fonction publique. On peut dire que bon, même si vous n'avez pas fait un historique effectivement, date par date, mais on peut considérer que depuis 20 ans, il y a comme ça une...
Il se déploie.
Voilà. Et là, donc, effectivement, avec le nouveau gouvernement, ça s'amplifie, hein, ce que vous avez parfaitement décrit, donc, avec la loi Pacte, le Cap 22, hein, et j'allais dire, d'ailleurs, que, j'y reviendrai en conclusion. Et là, vous dites une chose importante, c'est que, donc, ce sont les femmes qui sont le plus exposées par ce double mind, et en même temps, il y a peu de résistance derrière. C'est-à-dire que, on voit bien que, il y a quand même, donc pour le coup là, une problématique de genre, hein, qui intervient. Et dans le même temps, alors comment ça se passe ? C'est-à-dire que la violence est retournée contre soi. Donc c'est ce qu'on observe, c'est-à-dire que ça se traduit par une inflation des arrêts maladie, donc et plus particulièrement de ce qu'on appelle les risques psychosociaux.
Ça, c'est un débat qu'on a dans l'émission, effectivement. Alors, risques psychosociaux, c'est un terme qui est général. Et Selma, toi, tu parles de risque organisationnel. Vas-y, explique.
Oui, je pense que explicitement, ça met en cause ce qui doit être mis en cause, c'est-à-dire l'organisation du travail et pas les dispositions individuelles.
Bien sûr. Voilà. C'est dans le livre, j'insiste beaucoup sur cette idée que aujourd'hui, quand un salarié, de façon générale, mais à forcerie dans la fonction publique, est victime d'une injustice épouvantable, on lui dit mais vous avez l'air un peu fragile, vous devriez aller consulter un psychologue au lieu de renverser la table et dire il faut changer l'organisation du travail qui produit des souffrances telles que les gens ne peuvent pas bien faire leur travail.
Il a bel et bien été fragilisé, il n'est pas naturellement fragile.
Absolument, absolument. Et pour donc répondre à ta question, à partir du moment où on est dans un système où le salaire et le statut des personnes dépend d'une notation individuelle et d'une mise en concurrence, les femmes sont quasiment à tous les coups doublement perdantes. Elles sont perdantes parce qu'elles sont, dans l'immense majorité des cas, dans des structures où les chefs élevés sont des hommes et donc sont déjà dans un rapport de domination bien installé. Elles le sont parce que, pour des raisons, encore une fois, d'organisation familiale, sociale, c'est elles qui sont au premier chef responsables de la gestion des familiales et des enfants. Et donc, elles ont, comme par hasard, plus de mal à faire des réunions de 16 à 21 heures, travailler le week-end, être là pendant les vacances. Et donc, quand un chef demande à quelqu'un de s'investir pour montrer son attachement à l'entreprise ou au secteur ou à la mission, c'est plus fréquemment des hommes, et plus fréquemment des hommes d'ailleurs de plus de 50 ans, qui vont se porter volontaires. Et donc, non seulement les femmes ne vont pas être bien notées, mais elles vont être considérées comme peu fiables et donc elles vont être systématiquement retardées dans leur avancement, y compris dans la fonction publique, y compris dans l'enseignement, alors qu'il y a des grilles et qu'il y a des critères de progression. La différence de salaire homme-femme est de l'ordre de 15%. C'est moins que dans le privé où elle est de l'ordre de 25%, mais néanmoins ça reste très important. À partir du moment, il y a des études précises, hein, comme celle de Sophie Pochic par exemple, qui le montrent, dès que la part de la prime augmente, dès que la part du salaire fixe diminue et que la part de la prime augmente, ce sont toujours les femmes qui en sont les premières victimes.
Concernant les résistances,
j'allais venir, ouais. Comme le disait Selma, toute la perversité de ce système, c'est de rendre les gens individuellement responsables et coupables de tous les problèmes. Et donc, comme on leur demande de faire des choses impossibles, c'est le propre de l'injonction paradoxale, on leur demande de faire plus avec moins, de faire de meilleurs cours avec plus d'élèves par classe, de faire des soins à plus de personnes, etc. Les personnes sont dans des situations d'épuisement où, parce que ce sont des gens presque toujours très attachés au service public, ben ils essayent de faire tout ce qu'ils peuvent pour y arriver. Ils se heurtent la tête contre les murs parce qu'ils n'y arrivent pas. Et ils vont finir par se dire, ben c'est moi la mauvaise personne, c'est moi qui n'y arrive pas. Et donc ils vont culpabiliser en se disant que c'est eux qui ne sont pas à la hauteur, que si on leur a demandé de faire ça, c'est que ça devait être possible quelque part. Et au lieu de se dire, vous me demandez un truc impossible, l'organisation du travail est complètement absurde, et de montrer qu'il faudrait justement se révolter. C'est un peu pour ça que j'ai écrit ce livre. J'ai animé des stages pendant quelques années sur le livre précédent, et j'ai rencontré beaucoup d'agents et d'agentes du service public. Et ce qui me frappait, c'est qu'elles étaient à la fois très attachées à leur métier et en même temps dans des situations parfois de désespoir, mais beaucoup à se dire je suis épuisée, je n'y arrive plus, qu'est-ce qui m'arrive? Et moi je leur disais mais stop quoi, c'est pas vous, vous n'avez aucun problème. Toute personne normalement constituée mise dans une situation comme ça serait comme vous en échec d'une part et en état d'épuisement d'autre part. Puisque par ailleurs, hein, je le montre aussi un petit peu, dans l'historique du management, il y a la volonté d'empêcher toute résistance par la multiplication des tâches inutiles et épuisantes. Hein, faire des choses qui n'ont aucun sens, faire du travail qui n'a aucun sens, et être empêché de faire le travail qu'on a envie de faire, ça fait partie des choses qui sont particulièrement épuisantes et usantes pour les personnes. Et à partir du moment où on vampirise leur temps, leur capacité de résister, de réfléchir, de se poser et est affaibli.
Il y a quelque chose de machiavélique quand même, parce que on pourrait se dire à quoi ça sert ? À quoi ça sert en termes de rentabilité ? Justement, il parle d'efficience, donc à quoi ça sert de multiplier des tâches inutiles dont on sait très bien qu'elles sont inutiles, elles n'ajoutent aucune valeur au service rendu et elles ne rendent pas le fonctionnaire ou l'agent plus disponible pour faire son travail. Donc c'est on est bien là dans une, alors là on revient dans le manège quoi, c'est-à-dire que c'est les coûts et le dressage, voilà, l'objectif est vraiment la soumission plutôt que la rentabilité en réalité.
Oui. Ouais. Et
quand, soumission et contrôle.
Ouais.
Soumission et contrôle, bien sûr. Quand on étudie les origines du management, on voit bien que, contrairement à ce que je pensais, moi, je pensais que c'était vraiment quelque chose qui s'inscrivait dans une logique libérale classique de rentabilité, d'efficacité. Dans les faits, ce qu'on constate, c'est que c'est beaucoup plus des logiques de soumission, mise sous contrôle, et notamment, voilà, c'est pour ça que j'ai intitulé mon livre hein, « Pourquoi joindre l'inutile au désagréable ?» Si au moins ça marchait, si on faisait souffrir les agents, mais que ça allait mieux.
Que les objectifs étaient remplis.
Ouais, voilà. Bon, on serait pas content que les agents soient en souffrance, mais on se dirait, bon, ben, si le soin est meilleur...
Oui, ça répond à une rationalité.
Voilà, et c'est un peu ce qu'on raconte, c'est un peu ce que raconte le ministre. Hein, il dit, oui, les profs râlent, mais en vrai, ça sera mieux pour les élèves. Mais ok, mais montrez-moi où c'est mieux pour les élèves d'être à 35 par classe au lieu de 24. Montrez-moi où c'est mieux d'être dans des établissements ghetto au lieu d'être dans des établissements où beaucoup de choses de brassage sont possibles. Donc il y a vraiment un mensonge fondamental qui est contre ça hein, que j'essaie de lutter, qui est de prétendre que c'est un système efficace qui améliore la qualité du service, alors que toutes les études montrent que c'est totalement inefficace, que c'est très contre-productif, qu'en général, on casse des organisations qui marchaient assez bien, ou dans certains cas très bien, et que les gens, quand ils sont en concurrence les uns contre les autres, ben, ils ne travaillent pas du tout mieux que quand ils sont en collectif qui collabore et qui est solidaire.
D'expérience, juste, je vais parler un peu de mon expérience locale plus tard, on est dans l'émission, mais d'expérience, un temps fou est perdu en bisbilles de couloir. C'est-à-dire que là où ça roulait, les services travaillaient côte à côte, relativement en bonne entente, ou au moins en ne se marchant pas sur les pieds.
Où il y avait une coopération.
À minima, ils travaillaient en parallèle en bonne entente. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas de coopération, à minima, ils étaient capables en fait, de chacun tracer son sillon, service par service, et fournir le service, chacun dans son domaine. Là, maintenant, on se bagarre pour des photocopies, parce que là, ils ont réduit le nombre de photocopieuses et d'imprimantes par étage, une par étage, interconnectées, etc. Alors, pour faire des économies soi-disant, mais le problème, c'est qu'on se met à faire la queue pour des documents urgents. Et ainsi de suite. C'est-à-dire qu'en fait, l'espace se restreignant étant en concurrence pour les mêmes moyens, les mêmes outils, on finit par se bagarrer pour avoir l'accès prioritaire à l'outil, pour avoir l'accès prioritaire au chef qui doit rendre tel truc, mais il est pris par 30 000 autres évaluations qu'il doit rendre, etc. Et on veut passer devant, et on se met à avoir des politiques de file, c'est-à-dire d'essayer de sauter la file, de se faire des coups tordus. Et ça génère un temps perdu de fou pendant qu'on s'engueule et qu'on s'empaille dans les couloirs, et que le chef intervient pour mettre le calme et que chacun retourne dans son bureau. Mais ça sert à rien. Sauf que ça, quand même, ça a une rationalité, mais c'est pas celle qui dit, en fait, c'est ça.
Moi, ce que je me demandais, c'est qu'une fois qu'on a passé la manipulation et qu'on sait maintenant que ça n'améliore pas l'efficacité, donc la qualité, est-ce que vous avez eu accès à des données qui montrent que ça n'améliore pas non plus la productivité ?
Alors, le terme de productivité dans le service public, c'est un terme...
Oui, il parle d'efficience, mais c'est la même chose.
Ouais. Oui, il y a pas mal d'études, y compris de l'OCDE, hein, qui sont des gens un peu soupçonnables d'être...
Des révolutionnaires,
qui disent, par exemple, pour l'enseignement, le problème de l'enseignement en France, c'est le mal-être des enseignants. Et si on veut que le système s'améliore, les systèmes qui sont les plus efficaces, ce sont les systèmes où les enseignants sont valorisés dans des situations de solidarité et d'entraide. Donc oui, il y a pas mal d'études qui montrent que ça ne marche pas et que ça dégrade le service.
Alors moi, pour en venir à cette violence finalement retournée contre soi, hein, dans la plupart des cas, c'est-à-dire que d'une certaine manière, le management a atteint un de ses objectifs, hein, si c'est pas celui de produire plus, c'est en tout cas de démembrer les collectifs au travail, hein, comme mon camarade Bob aussi vient de le rappeler pour l'inspection du travail, mais dans d'autres secteurs aussi, et un des aspects, c'est aussi, ça correspond à ce qu'on pourrait appeler l'affaiblissement des syndicats, hein, donc où il y a, bon, on l'a vu aux dernières élections professionnelles, il y a une participation de plus en plus faible, hein, donc d'une certaine manière, c'est, on peut aussi penser que c'est une des finalités, hein, du management, c'est bien évidemment sortir de l'emprise, hein, de la représentation syndicale. Et est-ce qu'on peut penser que cette faiblesse, effectivement, des forces syndicales, eh bien, elle accroît, la violence retournée contre soi.
Oui, je suis entièrement d'accord avec vous. Je pense vraiment que c'est un objectif qui n'est pas secondaire du nouveau management public, de réduire la force syndicale. À partir du moment où, au lieu de considérer qu'on s'adresse à un collectif, on va vouloir noter les gens individuellement, les opposer les uns aux autres, instaurer des systèmes de salaire au mérite qui font que pour avoir un salaire supérieur, on va devoir enfoncer l'autre et montrer qu'on vaut plus que lui, ce qui pour le moment n'était pas ou peu le cas dans les services publics et notamment dans l'éducation dont je fais partie. À partir du moment où on instaure au contraire des systèmes de concurrence pour de l'argent, pour des responsabilités, etc., la démarche syndicale qui est de défendre un collectif, de défendre un service, est beaucoup plus compliquée. Et évidemment, si les gens rentrent dans ce moule d'individualisation et de croire qu'ils ont à gagner à se poser individuellement comme responsable de ce qui va bien dans leur travail, s'ils se mettent à dire je tout le temps au lieu de dire nous, bien évidemment ça complique la vie au syndicat. Ouais. Mm-hmm. Et je pense que c'est pour ça que nos syndicats, ils ont à travailler sur la façon dont les gens vivent ce nouveau management public et la façon aussi dont ils déploient des résistances de toutes sortes pour rester vivants et pour continuer à bien faire leur travail.
Si ça vous dérange pas, on va parler d'une fonction publique bien particulière qui a beaucoup souffert ces derniers temps, qui heureusement a été primée récemment, hein, parce qu'elle déprimait, donc elle a été primée pour arrêter de déprimer. Comment ça, ce sera après? Mais non, tu vas la mettre tout de suite. C'est une fonction publique qui est maintenant reconnue par le pouvoir. Ils ont râlé un petit peu après les événements des gilets jaunes, hein, on comprend, parce que les heures sup ne sont pas payées, il n'y a pas de récup, ça va plus du tout. Heureusement, on pense à eux. On a donc décidé de passer Boris Vian, la balade des chaussettes à clous. Elle est pas prête, mais ça, ils sont jamais prêts, les flics. Ah, ça, c'est pas possible, hein, vraiment. On est vraiment trop gentils avec eux. Hein. Tu nous dis quand, hein, Claude?
Et par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, c'est quand même pas non plus un hasard si les policiers qui sont des garçons à 90% obtiennent une augmentation de salaire en une journée de négociation, alors que les infirmières qui sont à 85% des femmes sont en grève dans plein d'endroits depuis plusieurs mois et n'obtiennent que des cacahuètes.
Il suffit de donner des flashballs aux infirmières. Moi j'ai trouvé la solution, hein. On la fait pas à moi. Bon, allez, maintenant qu'on a résolu ce petit problème d'équipement, est-ce que ça a avancé les chaussettes à clous? Ça aussi, c'est un élément d'équipement policier.
C'est pas grave, on va peut-être commencer à pouvoir t'interroger, Bob. Dis donc, c'est trop tôt?
Je sais pas, moi, il faut faire passer le fil d'abord, non?
Faire réfléchir un peu quand même, parce que moi, je me demande.
Pose ta première question.
Les inspecteurs du travail, avec leur indépendance toujours garantie par l'Organisation internationale du travail, vous tournez dans un manège ou pas?
Ouais, là on tourne pas mal dans un manège. Alors je vais vous parler de la situation à Bobigny, d'accord. On fera une petite pause pour écouter passer les chaussettes, hein. Mais ouais, bah à Bobigny, ça, c'est donc c'est une unité départementale, c'est-à-dire que grosso modo, on a un certain nombre de sections d'inspection, enfin. Les nouvelles sections d'inspection, hein, parce qu'on nous a fait des nouvelles sections d'inspection dans le cadre du nouveau management. Enfin bon, je vous passe. Voilà, donc on a été passablement déstructuré pendant toute la période du plan Sapin. Et en fait, bon, alors on a les grandes réformes qui passent. Hein,
c'est-à-dire
ça, c'est-à-dire les grandes réformes qui passent, c'est par exemple le plan Sapin, c'est par exemple la suppression du corps des contrôleurs du travail, à qui on a offert la possibilité. Donc bon, on a déjà discuté de tout ça, on a exposé tout ça dans l'émission, mais je rappelle juste un petit peu pour montrer un peu comment ça se traduit concrètement. Le nouveau management public. Voilà comment on va faire. Par exemple, les contrôleurs du travail jusqu'à récemment étaient en lutte pour des revalorisations, pour améliorer leur NBI, voire pour passer catégorie A. Et donc, ils étaient sur une bagarre de revalorisation de leur grille.
Et NBI, c'est quoi ?
Nouvelle bonification indiciaire, c'est certains corps de la fonction publique, ils ont droit à une prime particulière pour les fonctions qu'ils occupent. Voilà. Je poursuis donc. Donc, ils étaient en bagarre pour obtenir cette revalorisation de leur corps. Non, ils ne voulaient pas cesser d'être contrôleurs du travail, mais ils voulaient qu'ils se soient reconnus. Ce que leur a proposé Sapin, c'est un véritable tour de passe-passe. Il leur a dit « Vous allez tous passer inspecteur du travail ». Bon, ah bon, on n'avait pas prévu ça. Mais la section d'inspection composée d'un inspecteur et de contrôleurs, ah bah ça va changer. Ça va changer. C'est-à-dire qu'en fait, on ne savait pas vers quoi ça changeait. Mais tout ce qu'on savait, c'est que par contre, le corps des contrôleurs, il allait y passer. Qu'est-ce qu'ils leur ont proposé ? Eh bien, ils lui ont proposé un soi-disant examen annuel, multi-annuel en fait, plusieurs fois par an, un examen de passage au grade d'inspecteur qui s'avérait être en fait un concours, puisqu'on s'est aperçu que les places étaient limitées à l'origine, donc ça devient un concours, ce qui n'était pas prévu. Ils ont supprimé le corps sans passer par une loi de sortie des cadres, donc en violation de la Constitution, mais ça c'est pas grave, hein. Allez, on en est, allez hop, parce que le nouveau management public ne s'embarrasse pas de l'égalité. Quand on parle efficience, on ne parle pas l'égalité. D'accord. Donc si on doit contourner le statut, on le contourne. Si on doit violer la loi, on la viole. Hein, l'important, c'est que les choses changent sur le terrain. Et donc moins de phrases, plus d'actes. Et quelque part, il ne faut pas non plus confondre les grandes réformes, comme par exemple la réforme Sapin, la suppression du corps des contrôleurs, etc., etc. La réforme de l'inspection, nanana. Et le management, le nouveau management public au quotidien. Ça, c'est le supplice chinois, ça. Ça, c'est le truc où on va te faire couler la goutte, goutte à goutte sur le crâne, jusqu'à ce que tu aies un trou dans le crâne.
Bon. Concrètement ?
Concrètement.
Mais ça, tu vas nous le raconter après la musique.
Ouais, je vais le raconter après. Ouais. Alors, juste un truc. Alors, évidemment, c'est pas à RFPP qu'on va faire une ode aux forces de l'ordre. Hein, donc, les choses à Taclou, c'est un petit peu, comment dire, caricatural, mais on aime bien s'amuser avec nos amis les policiers. Par contre, non, il faut noter que, avec une grille d'analyse assez différente de la part des syndicats de police, il y a quand même le même problème de nouveau management public dans la police. Ils souffrent des mêmes carences, des mêmes problèmes, et par ailleurs, ils sont fléchés sur des missions qui sont inutiles, alors qu'ils savent très bien où est-ce qu'ils devraient aller, mais on ne leur permet pas de le faire parce que leurs objectifs les en empêchent.
Et tout à fait, dans notre chantier, nous avons un collègue CRS.
Et voilà, et tout à fait, et c'est pas surprenant. C'est pour ça d'ailleurs que, non mais, par ailleurs, l'accès à des armes de service crée des drames beaucoup plus fréquents dans la police, des passages à l'acte et des suicides.
Ah! C'est la statistique est fausse. Hein. Ah. Il y a plus d'enseignants qui se suicident proportionnellement que de policiers.
Eh ben voilà.
On ne le fait pas sur notre lieu de travail, on ne se tire pas dessus avec la photocopieuse de la salle des profs, mais le nombre de suicides
est
proportionnellement plus elle est cassée, donc elle est plus élevée chez les enseignants.
D'accord.
Ben, plusieurs centaines par an.
Ça, c'est une statistique que les auditeurs feraient bien de retenir, parce que je viens de dire une bêtise. Merci de m'avoir corrigé. Bon, ben, puisque c'est comme ça, écoutons donc les chaussettes à clous.
Très mutine, toujours à corte, elle donne à qui les porte une grâce virile et forte et toujours de très bonne aloi. Des chaussettes à clous.
On reprend l'émission sur
le management public avec Evelyne Bechtel-Rognon. Pourquoi joindre l'inutile au désagréable, en finir avec le nouveau management public aux éditions de l'Atelier. Nous reprenons avec l'expérience de Bob à l'inspection du travail. Donc on en était, tu étais en train de nous décrire donc ce nouveau management public au quotidien.
Ouais. Il y a deux facteurs. Bon, d'abord l'austérité, elle se ressent dans la durée. C'est-à-dire que l'austérité, c'est alors il y a peu de suppressions de postes sèches dans la fonction publique. Il y a à l'occasion de certaines restructurations, des fois on a des collègues qui disparaissent et des bureaux qui se vident, mais et généralement, ce qui se passe, c'était la stratégie de Sarkozy au début, c'est-à-dire pas de remplacement de départ à la retraite. Donc ça a un effet de supplice chinois parce qu'en fait, petit à petit, on voit des collègues partir et rien n'est prévu pour les remplacer. Ce qui veut dire qu'en fait, les postes sont fermés, ils ne sont pas rouverts à la vacance ou ils sont maintenus vacants pendant des années. Et ce qui se passe, c'est que dans une profession comme l'inspection du travail, on est obligé de couvrir tout le territoire. C'est une garantie, à l'usager. Donc on est obligé que chaque section soit couverte. Or, quand elle est vide, il faut bien qu'il y ait quelqu'un pour faire l'intérim. C'est comme ça qu'ils nous tiennent. Parce que faire l'intérim d'une section qui n'est pas la sienne, c'est compliqué. Faut prendre les dossiers en cours, il faut réagir aux urgences. On est saisi par des salariés, par des syndicalistes, etc., etc., comme pour notre section à nous. Le problème, c'est qu'on n'a pas l'expérience de long terme de cette section. Mais c'est une vraie charge de travail en plus. On a un double travail, en fait. Pendant la réforme Sapin, pendant que des blocs entiers de contrôleurs partaient en formation, disparaissaient pendant des mois des services, on a eu des intérims à deux intérims, trois intérims par agent. Quatre sections.
Tu sais, Bob, pour que les auditrices et les auditeurs en prennent la mesure, je me disais que ce serait bon de rappeler que vous êtes à peu près aujourd'hui 1800 agents de contrôle pour entre 18 millions et 20 millions de salariés
c'est
du secteur privé.
C'est ça, exactement. Sachant que nous avons aussi une intervention plus limitée dans des secteurs de la fonction publique comme la territoriale et l'hospitalière. Et la Poste, maintenant, qui est de nouveau dans notre compétence. Et Pôle emploi, qui est dans notre compétence.
Mais oui, puisque vous restez compétent sur tout le livre 4, sur toute la partie conditions de travail, hygiène, sécurité.
Sur la Poste, on est compétent sur tout maintenant. Donc, c'est-à-dire qu'en plus, notre champ s'élargit petit à petit au fur et à mesure qu'ils privatisent la fonction publique. On se retrouve avec des SA, là où il y avait des services publics qui étaient des EPA, sur lesquels on n'avait pas à intervenir. D'accord ? EPA, établissement public administratif, d'accord ? Et SA, bon, évidemment, société anonyme. Donc, la Poste est passée de l'un à l'autre, des PIC. Donc, établissement public industriel et commercial, à une SA, donc les purement privés. Donc, on a de plus en plus de boulot, on a de plus en plus de salariés en responsabilité, et on est de moins en moins nombreux. Oui, on était 2200. Il y a encore une dizaine d'années. Il y a un poste sur six qui a été supprimé en 10 ans. Donc au contrôle. On ne parle même pas de tous les services parce que évidemment. Alors il y a cet aspect-là et il y a un aspect particulièrement désagréable. C'est que la fonction RH en général et ce qui se traduit par des actions individuelles des différentes personnes, personnelles des RH, il faut bien des gens pour faire tourner la boutique en termes de fonction support, la fonction RH nous devient globalement hostile. C'est-à-dire que le but de la fonction RH dans la fonction publique historiquement était de, on va dire, garantir un certain nombre de moyens aux fonctionnaires pour qu'ils puissent effectuer son service. Aujourd'hui, c'est priver le fonctionnaire d'un accès à ses droits. C'est-à-dire qu'ils vont refuser à la base, toute demande sera refusée sans texte. Et c'est au fonctionnaire qui fait la demande d'apporter la preuve par le texte qu'il a droit à cette demande. Donc ils ne sont plus dans une fonction d'appui, ils sont dans une fonction de frein. Et donc ça, au quotidien, c'est insupportable. Parce que ça aussi, par exemple, c'est quelque chose de catastrophique. Alors, je vous donne encore un exemple. Je veux pas vous saouler avec nos petites misères, mais par exemple aussi la numérisation. Au moment où ils numérisent, ils nous demandent de basculer sur des plateformes, à la fois pour l'action de contrôle, mais également pour les services support et RH, c'est-à-dire que maintenant, y compris nos frais, y compris nos demandes RH doivent passer par une plateforme, ils nous suppriment les services informatiques. Nous avons maintenant trois fois moins d'agents en services informatiques que nous en avions il y a 5 ans. Et ils sont multidépartementalisés. C'est-à-dire que là où on avait quelqu'un à demeure qui était prêt à intervenir sur un ordinateur qui serait en panne ou qui planterait, sachant l'importance évidemment de la connexion maintenant pour tout le travail, la personne, un jour sur deux, sera dans le département d'à côté. Et donc, on devra attendre une journée de plus avant de voir venir le dépanneur.
Et donc, c'est là où on est vraiment dans le double bind, dans la double contrainte. C'est-à-dire que on vous dit passez par le service informatique, mais le service informatique est défaillant faute de personnel, avec des machines en plus de qui sont rarement à jour en termes d'efficacité et sur lesquelles les logiciels parfois plantent eux-mêmes. C'est-à-dire qu'en plus la gabégie dans la numérisation est énorme, c'est-à-dire qu'ils achètent à prix d'or des tromblons à IBM qui n'a pas réussi à les vendre au privé et qui utilisent les mêmes plateformes qui sont invendables dans le privé, ils les achètent à prix d'or dans le service public pour que ça ne marche pas sur nos ordi.
Mais alors la question qui vient tout de suite, c'est on se dit les inspecteurs du travail, vous n'êtes quand même pas des plus démunis pour résister. Alors qu'en est-il de la résistance et notamment syndicale chez vous ?
Alors, deux choses, deux problèmes. Alors d'abord, on casse la résistance par la pratique quotidienne du dialogue social qui ne sert à rien. D'accord, ça a été testé. Alors c'est une invention du management du privé là aussi. Hein. On n'a pas inventé grand chose dans le nouveau management fonction publique en fait. Hein. C'est une invention du privé. Dès les années 70, les employeurs confrontés à la croissance de toutes les différentes formes d'institutions représentatives du personnel ont décidé de les embringuer dans des cycles infinis de discussions et de négociations.
C'est-à-dire ils vous épuisent dans les réunions.
Qui ne servent à rien.
Débats techniques, chiffrés.
C'est ça. Avec en plus la logique complètement bizarroïde de la représentation du personnel en France, qui n'a aucune co-gestion. Ils nous envoient des informations. T'as déjà vu un vote contre au CE qui a bloqué un... Dans la fonction publique, en théorie, il y a l'unanimité d'une instance, l'unanimité contre d'une instance oblige à revoir la copie. Mais pour ça, il y a la CFDT, si tu veux. Donc il y a ce facteur qui fait que de toute façon, il y aura toujours un connard de la CFDT, excusez-moi, mais là on est sur RFPP quand même, on dit les choses telles qu'elles sont, qui va voter ou s'abstenir et nous flinguer notre unanimité.
Au Conseil supérieur de l'école, hier, mercredi, les projets de programme de la réforme du lycée ont été proposés. Il y a eu unanimité contre, c'est-à-dire 50 contre, 0 pour, parfois 1... dont je ne citerai pas la couleur, s'abstenait, mais quand même majoritairement 48, 49, alors, 50 contre.
En 4 lettres commençant par C.
Et à la fin, donc, les collègues qui étaient là-bas disaient, qu'est-ce qu'on fait, quoi ? Est-ce que vous revoyez ? Le ministre décidera. Et voilà, l'unanimité de tous les représentants syndicaux, de tous les représentants des parents, ça ne vaut plus rien.
C'est ça. Voilà. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, le cas échéant, c'est la répression directe contre les syndicalistes. C'est-à-dire que ça, dans la fonction publique, avec la loi de déontologie de Hollande, et c'est là où... Je rejoins parfaitement sur le double langage, sur le détournement des mots. La loi déontologie de Hollande n'est pas une loi de déontologie. La loi déontologie de Hollande est la reprise de l'essentiel de la loi mobilité de Sarkozy pour virer les fonctionnaires. Dans la loi déontologie, un des articles les plus importants, c'est tout fonctionnaire dont le poste sera supprimé doit chercher lui-même son travail. D'accord ? Il doit se reclasser lui-même. C'est le reclassement personnalisé dans la fonction publique. Alors qu'avant, la garantie du grade et de l'emploi était donnée aux fonctionnaires. Maintenant, c'est différent. Alors ça, c'est des choses comme ça, mais évidemment, il y a un volet déontologie dans la déontologie. Quand même, ils ont mis un petit bout dedans, mais c'est essentiellement du disciplinaire pur, c'est-à-dire c'est du ferme ta gueule. Et alors nous, chez nous, ça s'est traduit par le décret de déontologie de l'inspection du travail, qui est un décret bâillon, mais qui nous place au niveau de secret professionnel de la DGSI. Non mais sérieux, je vous dis ça, on n'a pas le droit de nous exprimer désormais du tout sur aucun sujet professionnel qui nous concerne.
Et alors, depuis quand, pour bien enraciner contextuellement les choses, c'est la loi Sapin qui a introduit... Quand l'unanimité de l'instance ne pèse plus...
Mais c'est ce que je disais sur la légalité.
Ça veut dire que ça c'est dans les textes, mais dans la réalité ça fonctionne différemment, c'est ça,
c'est ça.
Pour bien comprendre.
C'est ça. Alors... c'est, en théorie, effectivement, dans les textes qui régissent les institutions représentatives du personnel, l'unanimité contre donc des représentants du personnel vaut au moins report de la décision. Ouais. C'est-à-dire qu'on ne peut pas décider dans la suite d'une réunion où il y a l'unanimité contre de mettre en œuvre ce qui vient d'être rejeté. Mais voilà, il y a la loi et il y a les actes. Et on a vu que l'illégalité, c'est, je ne dirais même pas que ça leur fait peur, c'est quelque chose qui goûte. C'est, ils aiment se mettre dans l'illégalité. Ils aiment parce qu'ils veulent, ils ont tous le rêve d'être le disrupteur de Macron. C'est la haute fonction publique aujourd'hui, elle a basculé dans un autre monde. Elle a basculé dans un monde où ils se rêvent en chef d'entreprise. Dynamique, n'ayant pas peur de faire de casser du bois, de piétiner les agents, d'aller contre les règles. C'est ça être un vrai winner.
C'est ce que tu dis dans le livre aussi, Evelyne, par ailleurs. Dans les dernières pages où tu reviens sur les valeurs de la fonction publique, et avec effectivement le modèle Rousseau versus le modèle Adam Smith, c'est que effectivement c'est pas essentiellement sur la figure de Macron, c'est autour que gravite toute une série de responsables politiques qui visent c'est autour de Bercy que ça se situe essentiellement
ce que racontait Bob sur les échelons intermédiaires, en fait, qui pendant longtemps étaient des échelons proches qui soutenaient, qui aidaient bon an mal an à travailler. Et là, ils sont, eux, dans une torsion terrible qui est qu'ils ont en dessous tous les gens qui essaient de faire le boulot, qui n'y arrivent plus, qui viennent les voir en disant « mais faut plus qu'on continue comme ça ». Et leur hiérarchie propre à eux qui leur dit « vous devez faire ça, remplissez ça, vous allez être noté là, vous allez être déplacé, etc. » Et donc, ils deviennent complètement fous dans vraiment des injonctions paradoxales. Terrible. Par rapport à ce que tu disais aussi, ce qui est très spectaculaire, c'est à quel point le fait de ne pas connaître la profession, de ne pas connaître le métier, de ne jamais avoir fait ce travail est devenu une qualité. On considère que quelqu'un qui dirigerait par exemple un service territorial ou quelqu'un qui dirigerait même un lycée ou un hôpital, il faut surtout pas qu'il sache ce que c'est. Parce que s'il était, par exemple, dirigeant d'hôpital, si c'était un ancien médecin, c'est pas, quasiment plus jamais le cas. Parce qu'un ancien médecin, quand même, il se rappelle ce que c'est d'être face à un malade, d'être face à des soignants, d'être avec des infirmières, des aides-soignantes. Et donc, pour éviter toute empathie, pour éviter toute contamination par le réel, il faut nommer des gens qui sont le plus éloignés possible du vécu, du travail réel. Et pour les contrer, une des choses qu'on essaye de faire et qu'on peut faire, c'est constamment les renvoyer au travail réel, au fait que seuls les gens qui font ce boulot savent de quoi il est question, que eux seuls sont les connaisseurs de leur travail, et apprendre, parce que parfois on ne le fait pas, apprendre à dire à quel point on fait des métiers complexes, très, hyper qualifiés, et qui demandent un investissement, une créativité, des compétences tout à fait ignorées. Et invisible.
Leur remettre un coup sur notre professionnalisme face à leur incompétence générale, c'est-à-dire qu'ils sont des incompétents généraux. Ils sont compétents sur rien.
C'est des planeurs,
oui, c'est ça. Tout à fait. Alors, je voulais juste revenir, si vous permettez, avant de te repasser la main, sur quelques exemples un peu de résistance qu'on a vu dans cette émission, qu'on a des gens qu'on avait invités ou d'autres exemples. Alors, je pense à Pôle emploi. Notamment l'action à Lomière qui a eu lieu en jonction avec les intermittents, c'est-à-dire qu'on déborde le cadre, c'est intéressant de déborder le cadre restreint, hiérarchique et très corporatiste dans lequel on veut nous enfermer. Je pense aux assemblées générales d'agents telles qu'elles se déroulent à la Poste, où tous les agents, fonctionnaires ou contractuels, participent à l'AG, votent les décisions, etc. Donc pour casser le côté effectivement isolant. Je parle aussi par exemple de la marche qu'ont fait les eaux et forêts pour défendre la forêt en France, qui est en train d'être vendue à l'encan, avec en même temps la liquidation de l'administration concernée. Je pense, une petite anecdote, on connaît les luttes des hospitaliers. Effectivement, il y a des luttes très dures dans les hôpitaux. Ils ont, à l'occasion de la loi travail, ils ont constitué ce qu'ils appelaient le black bloc opératoire, c'est-à-dire en fait, grosso modo, une intervention en blouse dans le cortège de tête. Qui est une manière de dépasser effectivement aussi des isolements sectoriels, hein, on va dire. Et donc à l'inspection du travail, comment on a réagi? En tout cas à Bobigny, on s'appuie sur un réseau syndical local qui fonctionne aussi par assemblée, hein, pour essayer de voir tous les agents autour de la table, de diffuser l'actualité des services, des réformes à venir. Évidemment, c'est pas très remoralisant, mais on cible des points particuliers sur lesquels on veut avoir gain de cause localement, des embauches, des titularisations de vacataires, des primes spéciales qu'on arrive à débloquer en faisant, en tordant le bras de la direction, des reconnaissances d'ancienneté accrues, des choses comme ça. Et donc, il est quand même possible, hein, y compris dans un système dégradé comme nous impose le nouveau management public, de résister. C'est ça qu'il faut savoir. Mais il faut sortir, il faut absolument sortir des cadres habituels du syndicalisme fonction publique qui a été totalement contourné et par ce nouvel management. Enfin, moi, c'est mon point de vue. Je pense que je trouverai un accord. Nathalie, tu veux nous éclairer sur quelques sources ?
Oui, alors, donc, en rapport avec l'actualité, donc, je voudrais simplement, donc, pour finir cette émission sur les dérives du management, je voudrais donc faire part que, donc, 9 ans après les premières plaintes déposées en septembre 2009, les juges instructeurs de Pôle du Pôle Santé publique Paris ont le 12 juin dernier renvoyé devant le tribunal correctionnel l'entreprise France Télécom ainsi que son ancien PDG Didier Lombard et 6 autres dirigeants et cadres pour harcèlement moral et ou complicité de harcèlement moral. Les juges ont considéré que cette équipe avait mené une politique d'entreprise visant à déstabiliser les salariés et à créer un climat professionnel anxiogène, ayant notamment conduit 19 salariés à se suicider. Moi, j'ai entendu parler de 35, mais on ne va pas batailler ce soir sur le nombre de suicides.
Ça a dû être ce qui a été retenu en tribunal.
Peut-être, voilà. Sans doute. Donc, 12 a tenté de le faire, voilà, donc 12 autres personnes qui ont tenté de le faire, et 8 à subir un épisode de dépression ou un arrêt de travail. Les dérives du management et de ses méthodes avaient été mises en cause par plusieurs rapports, dont ceux du cabinet Technologia qui avait révélé les dégâts sur la santé physique et mentale des salariés à l'occasion du programme lancé par France Télécom, une nouvelle expérience des télécommunications, tu parles, dont l'objectif était quand même de faire virer 22 000 salariés par tous les moyens. Ça, ils ont employé tous les moyens. De récentes enquêtes décrivant l'évolution des conditions de travail en France, deux séries d'enquêtes européennes et françaises sur les conditions de travail mettent en évidence la très médiocre qualité des conditions de travail françaises en voie de dégradation depuis 2005 et nettement moins bonne que dans beaucoup d'autres pays européens. La dernière vague de l'enquête European Survey de 2015 pointe aussi la faible qualité du management français, donc confirmée par des enquêtes de terrain qui soulignent les graves défauts d'un management fondé sur le diplôme, trop souvent incapable de connaître les contraintes réelles du travail, comme vient de le dire Evelyne, et dès lors de fixer correctement les objectifs et de reconnaître comme il convient les salariés et leurs efforts. Et enfin, la dernière enquête de la DARES de décembre 2017, sortie en 2017, confirme le haut niveau de contraintes auxquelles sont soumis les salariés, notamment ceux de la fonction publique hospitalière, l'augmentation du travail dans l'urgence et le recul de l'autonomie au travail. Merci les amis.
Merci beaucoup. Allez, à l'année prochaine, hein, sur Secret de Fabrication. Allez. Well, I'm grinding my life out, steady and sure. Nothing more wretched than what I must endure. I'm drenched in the light that shines from the sun. I could stone you to death for the wrongs that you've done. Sooner or later, you'll make